posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus. Yann-Anthony Noguès.
Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Plateau prestigieux, aujourd'hui avec une star internationale, j'ai nommé Jean Quatremer.
Enfin, on le reconnaît.
Bonjour Jean Quatremer.
Bonjour.
Correspondant de Libération, comment allez-vous?
Écoutez, extrêmement bien, parce que vous savez que d'ailleurs, ça tombe bien que vous le disiez, parce que c'est qu'un de mes restaurants favoris à Bruxelles s'appelle Lego.
D'accord.
Voilà.
Ok.
Que je ferais contre Pascal Lamy.
À vous voir, je pensais que c'était plutôt le Playmobil. Justement, Pascal Lamy, qui est également sur notre plateau, ancien directeur général de l'OMC. Bonjour.
Bonjour.
Alors maintenant, vous présidez, et si vous êtes ici au Parlement européen aujourd'hui, c'est parce que vous présidez le comité de parrainage du prix du livre européen qui célèbre cette année sa 10e édition. Ça
Absolument.
Marche bien le prix du livre
Absolument.
Européen ?
C'est un peu de boulot de lire 30 fictions et 30 non-fictions entre le 15 juin et le 15 septembre. Mais mes collègues et moi, on fait ça très sérieusement et donc on propose au jury final, qui est cette fois-ci présidé par notre ami Oliver Stone, trois essais qui parlent de l'Europe. Alors, quand on dit parler d'un livre, ça fait un peu curieux, mais ils parlent de l'Europe. Ils évoquent l'Europe quand c'est des romans et ils expliquent l'Europe quand c'est des essais.
On va parler du prix du livre européen avec vous, naturellement. On va également parler de la Chine qui a une petite actualité ce dimanche, qui obtient le statut officiel aux yeux de l'OMC d'économie de marché. En gros, ce ne serait plus officiellement une économie communiste. On va y revenir. Bonjour Sylvie Guillaume.
Bonjour.
Vice-présidente du Parlement européen en charge de la communication. Ce qui nous manque en Europe aujourd'hui, c'est quand même un narratif.
C'est clair, il faut qu'on ait de nouvelles idées et qu'on arrive à défendre ça de façon un peu plus vocale, puisque vous étiez sur
qu'on apprenne à raconter l'Europe et avec une autre histoire.
Oui, d'autres. Enfin, en même temps, notre histoire, elle existe. On ne peut pas, comme ça, la balayer d'un revers de main. Mais il faut trouver de nouveaux thèmes, il faut trouver de nouvelles façons de le dire aussi, et puis s'adresser aussi à de nouveaux publics.
Et pour ce brainstorm, pour trouver un nouveau narratif pour l'Europe, on a donc Jean Quatremer, Sylvie Guillaume, Pascal Lamy et Oliver Stone, la vraie star par rapport à Quatremer.
Oh,
par rapport à Quatremer, international hollywoodienne autour de ce plateau. Merci Oliver Stone d'avoir accepté notre Merci. Invitation. Vous êtes le président du jury du prix du livre européen.
Oui.
Vous avez également, évidemment, commis JFK. Vous allez bientôt faire un nouveau film, JCJ, pour Jean-Claude Juncker, je pense. on va en reparler. Vous avez cette idée, j'en suis sûr.
Non, je suis content d'être là. Je suis moitié français, ma mère est française. J'ai passé beaucoup de temps quand j'étais jeune en France, mais... Je lis beaucoup mieux l'anglais. Et j'ai essayé de lire les bouquins lentement, avec de l'aide. Et on a trouvé les gagnants.
Les noms des gagnants de ce prix du livre européen dans les différentes catégories. Tout de suite, on va brainstormer sur un nouveau narratif pour l'Europe. Demandez le programme de 500 millions d'Européens pour réagir. Hashtag 500ME. J'ai longtemps cru, oui, Oliver Stone n'aime pas le terme brainstormer. On a des termes anglais pour que vous nous compreniez, sinon on aurait utilisé le terme réfléchir, évidemment. Vous ne croyez plus tellement dans les États-Unis. Est-ce que vous croyez encore dans l'Europe, Oliver Stone?
Je suis sur la caméra maintenant.
Oui, ça filme. Il y a le caméra et le micro.
I'd have to explain what I'm thinking.
Bon, vous switchez. It takes a little time.
As I said, I was raised.
Comme je vous le disais, ma mère était française et j'ai passé beaucoup de temps en France. Mais c'était dans les années 50-60.
Je m'en souviens très bien. L'Europe était un endroit merveilleux avec des cultures extraordinaires. J'ai voyagé dans différents pays à l'époque et chaque pays était différent. Chacun avait sa propre monnaie. On ne parlait pas d'Europe d'ailleurs. Chaque pays avait son nom, sa langue, son mode de vie et c'était magnifique.
De Gaulle
à l'époque est sorti du lot et a voulu une France indépendante. Il est alors sorti de l'OTAN. Ça m'a vraiment marqué à l'époque. La France est d'ailleurs restée longtemps en dehors de l'OTAN, jusqu'à Sarkozy. De Gaulle avait cette fierté, vous savez. Vous devez, vous, les Français, être fiers, car vous avez une culture extraordinaire. Vous avez un pays ancien, civilisé. Vous vous sous-estimez lorsque vous dites que l'Europe n'a plus de narratif. Je ne crois pas que vous l'ayez perdu, il est là. Il est ancien, vous devez juste le retrouver. Vous en souvenir et vous battre pour lui, car c'est une question d'indépendance.
L'Europe a toujours été regardée comme un emplacement stratégique dans l'affrontement entre les États-Unis et la Russie. L'effondrement de l'URSS en 1991, la guerre froide aurait dû s'arrêter avec ça.
C'était une détente.
Mais les États-Unis ont continué à vouloir étendre leur influence. L'accord à l'époque incluait que Gorbatchev ne devait pas laisser l'OTAN s'étendre vers l'Est. Mais voilà, sous Clinton, Bush, puis Obama, l'OTAN a intégré 13 nouveaux membres aux frontières de la Russie. Désormais, l'OTAN encercle la Russie. Nous avons nos mains autour du cou des Russes. Il y a également les pays de l'Est qui sont fous et qui sont anti-russes. Ils ont hérité ça de l'ère communiste. Et vous, les Européens, êtes convaincus par ce mouvement. L'Europe de l'Ouest a été convaincue par l'Europe de l'Est que la Russie est une menace, alors qu'elle n'en est pas vraiment une et n'a jamais voulu le devenir. Et maintenant, vous pensez que la Russie va envahir l'Europe de l'Est? C'est n'importe quoi. Cette menace a été créée de toutes pièces par les États-Unis de manière à ce que tous les États européens restent sous le pavillon de l'OTAN et dans l'Union européenne.
Pascal Lamy, qu'est-ce que vous en pensez de cette analyse d'Oliver Stone?
Non, j'ai quelques nuances par rapport à cette analyse. Ce n'est pas l'OTAN, quoi qu'on en pense, qui a envahi un morceau du territoire russe. C'est la Russie qui a envahi un morceau d'un pays qui n'est pas dans l'OTAN et qui s'appelle l'Ukraine. Donc pour l'instant, on peut regarder la géostratégie, mais enfin, dans les faits, où est-ce qu'il y a des soldats russes? C'est en Crimée, puisqu'ils ont annexé un morceau de l'Ukraine qui s'appelle la Crimée, et c'est, dit-on, quand on regarde de près, dans la partie orientale de l'Ukraine. Mais sur le fond, je suis entièrement d'accord sur le fait que le narratif, le récit européen, à la fois pour les Européens et pour les non-Européens, de ce pourquoi il faut faire l'Europe, doit changer. Ça n'est plus celui des années 50, qui était de faire la paix entre la France et l'Allemagne. Si je raconte à mes petits-enfants qu'il faut faire l'Europe pour faire la paix entre la France et l'Allemagne, ils me regardent, parce que pour eux, De Gaulle, Churchill, c'est Jeanne d'Arc juste après les Diplodocus.
En attendant,
ça ne fait pas de sens.
En attendant, ce que finance le Kremlin, ce sont les partis anti-européens. Mm-hmm. Donc la Russie a quand même une politique sous la table, active, de lutte contre l'Union européenne, Sylvie Guillaume.
Manifestement, et elle a aussi une politique qui n'est pas négligeable, c'est le moins qu'on puisse dire, au Moyen-Orient. On a quand même dans l'Europe un problème majeur avec la question des réfugiés, avec le problème de la guerre civile, de cette guerre en Syrie, un embrasement généralisé, une problématique aux frontières qui a été très très mal perçue, mal gérée, je crois, par plein d'États membres de l'Union européenne, et la présence de la Russie, son action, est évidemment tout à fait à considérer. Donc on ne peut pas balayer cet aspect-là.
Si on recentre le débat sur le récit européen, ce narratif européen, Jean Quatremer, comment peut-on remobiliser les 500 millions d'Européens, bientôt 440 millions d'Européens peut-être, autour de ce projet?
Mais c'est pas tout de suite.
Mais alors, je crois que l'un des problèmes fondamentaux que doit affronter aujourd'hui l'Union européenne, c'est qu'au fond, elle a atteint son but. En fait, son mythe fondateur a été atteint. Il n'y a aucun autre ensemble politique sur la planète qui a atteint son mythe fondateur. C'était quoi le mythe fondateur de l'Union européenne? C'était de faire la paix. Et aujourd'hui, comme le dit très bien Pascal Lamy, personne n'imagine plus dans l'Union européenne une guerre entre la France et l'Allemagne, entre la France et l'Italie, entre l'Italie et la Croatie. Ça paraît tout à fait impossible. Donc on n'arrive pas à vendre cette idée de la paix auprès des jeunes. Et pourtant, cette paix, contrairement à ce qu'on croit, elle est fragile. Parce que elle n'existe que parce que l'Union européenne. Ce que disent les populistes, c'est de dire, bah, puisqu'on a atteint le but qui nous étions fixés, qui était la paix, bah, sortons l'Union européenne.
Il faut mieux communiquer sur la paix ou bien on évacue la logique de paix et on parle d'autre chose.
Je pense que la logique de paix, elle doit être là. On doit dire aux gens à quel point c'est extrêmement fragile. Je veux dire que la Yougoslavie, par exemple, avant l'éclatement, tout le monde célébrait le multiculturalisme de la Yougoslavie. Les gens étaient mariés entre eux, vivaient entre eux. La Bosnie-Herzégovine, c'était le rêve multiculturel de la gauche européenne. Et en l'espace de 6 mois, ça a basculé. Ça a basculé. Des gens qui juraient qu'il n'y a jamais n'y aurait de guerre là-bas, ils se sont massacrés d'une rue à l'autre, d'une maison à l'autre. La capacité de l'être humain à haïr son prochain est extraordinaire. Et c'est ça qu'on doit réexpliquer aux gens. C'est que tout ça est d'une fragilité extrême. Et il ne faut pas se tromper, je termine juste là-dessus, avec le discours économique. Moi, je récuse tout à fait le discours économique qui était celui de Delors, qui était de dire il faut qu'on soit riche, sans chômage, pour faire l'Europe. Et plus les gens verront qu'on produit de la prospérité, plus on sera européen. C'est l'inverse en Europe. Les gens où il y a les pays où il y a le plus de chômage, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, sont les plus attachés à l'Europe, alors que les pays où il y a le moins de chômage, les Pays-Bas, la Finlande, le Danemark, sont les moins attachés à l'Europe.
Je peux vous lire un petit texte. L'Europe a pris le marché comme principal moteur d'intégration au mépris des souverainetés populaires et de l'histoire de ces nations. Les élites européennes ont privilégié l'économie aux politiques et leurs peuples se sont éloignés d'elles. Aujourd'hui, l'Europe peine à exister alors que nous avons tant besoin d'elle. Seule en se redécouvrant à travers la culture, l'histoire et la diversité de ses peuples, l'Europe que j'ai rêvé pourra répondre aux défis que notre humanité affronte.
C'est Manuel Valls ?
C'est pas Manuel Valls, c'est qui ?
Bon, c'est François Hollande.
C'est Oliver Stone.
Oliver Stone. Ça va, c'est bien. C'est bien.
Three against one. So where
no,
do I start?
What
peace in Europe? De quelle paix parlez-vous? La guerre est partout.
Everywhere in the world, the United States.
Les États-Unis, la Libye, l'Irak, la Syrie.
Couldn't agree with less with you with what you.
Je suis absolument pas d'accord avec ce que vous dites. Il n'y a pas de paix.
By refugees and by disorder.
L'Europe est assiégée par les migrants et le chaos provoqué par les États-Unis. Notamment à cause de la guerre en Irak. Celle à laquelle Chirac, Dieu merci, a dit non. Je l'admire d'ailleurs pour ça. De même que.
Je parlais de la paix dans l'Union européenne, à l'intérieur de nos frontières.
If there's war outside the right outside the borders of the Union. Number two, Ukraine, just quickly. Ukraine. I made a movie.
Ensuite, j'aimerais parler de l'Ukraine. J'ai réalisé un documentaire qui s'appelle L'Ukraine en feu.
We show very clearly that this was a United States coup.
On y montre que c'est un coup d'État monté par les États-Unis.
C'était un sale jeu. Il y a beaucoup d'argent dedans. Il y a des.
Ils ont installé un gouvernement corrompu en Ukraine qui existe encore avec des fascistes, des néo-nazis.
With neo-Nazis in it, and they were very much part of a campaign.
C'est une campagne qui dure depuis plusieurs années. La visite de John McCain en Ukraine est un geste, par exemple, pour ramener l'Ukraine à l'Ouest.
To the West, so to speak.
Ça n'est pas vraiment notre sujet, qui est le narratif européen.
Le narratif européen. Et justement, merci Pascal Lamy de recentrer la discussion sur le narratif européen.
Un coup d'État vient d'avoir lieu.
À l'intérieur même du territoire européen, même au cœur même du Parlement
c'est
européen.
C'est une alliance objective entre Sylvie Guillaume et moi.
Oliver Stone est en pleine forme, Pascal Lamy aussi, Sylvie Guillaume, Jean-Quatremer. On se retrouve tout de suite après un court message publicitaire.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens, depuis le Parlement européen à Bruxelles.
Depuis le Parlement européen à Bruxelles qui accueille cette semaine la 10e édition du Prix du Livre européen, présidé dans le comité de parrainage et présidé par Pascal Lamy, l'ancien patron de l'OMC. Et le jury était présidé par Oliver Stone, le réalisateur. Tous les deux sont nos invités, ainsi que Sylvie Guillaume, vice-présidente du Parlement européen de la famille socialiste française. Et Jean Quatremer, bon voilà, il y avait du monde, mais on l'a toutes les semaines. Il fallait
bien qu'il vienne.
On n'a pas besoin de le présenter. Alors, vous vouliez juste dire une chose sur la Syrie, Oliver Stone, par rapport au point soulevé par Sylvie Guillaume.
Yeah, I would just point out that
Et ensuite, on parle de l'Europe.
Je voulais souligner que ce sont les différences entre les États-Unis et la Russie qui ont foncé l'Europe. Par exemple, en Syrie, l'Europe a pris une position anti-russe, mais les Russes avaient une alliance qui date des années 70 avec les Syriens, de la même manière que la Russie est alliée avec l'Iran depuis des années.
So this is a very important nation to the stability of the Middle East.
La Russie est cruciale pour la stabilité du Moyen-Orient. La France, avec l'action de Hollande et celle de Sarkozy, a participé à la déstabilisation du Moyen-Orient en allant en Libye, en Ukraine, en adoptant des positions à l'encontre de la Russie.
Et l'Europe, à un moment donné.
No, because Ukraine, because
je me permets de revenir sur le sujet de l'Ukraine. Il y a eu des sanctions de la part de l'Europe, mais l'Europe aurait plutôt intérêt à favoriser les échanges avec la Russie. Les États-Unis voulaient que l'Europe prenne des sanctions contre la Russie
because it wanted you to pass sanctions on Russia. Russia has not been aggressive. Russia has been defensive.
Mais regardez bien, la Russie n'a pas été agressive. Elle est sur la défensive car ils ont peur des États-Unis.
On parle de l'Europe, hein, s'il vous plaît.
They're doing exercises on their border the size of Hitler's exercises in World War II.
La notion, cher Oliver, je vais donner la parole à Sylvie.
Merci.
Expliquer la position des parlementaires européens, mais l'idée que Monsieur Poutine, comme tu viens de le dire, mord et mord de trouille, ça, franchement, je n'y crois pas. En tout cas, ce n'est pas l'impression qu'il donne.
I've met him, I'm doing a documentary on him. I've spent about 15 hours with him.
Je réalise actuellement un documentaire sur Poutine et il s'est comporté avec moi comme un homme d'État. Il m'a parlé de ses relations avec les États-Unis et l'Europe.
He's always been sensible. If you read his speeches going back,
il a toujours été raisonnable. Dans tous ses discours depuis le début des années 2000, il dit ce qu'il pense. Il tient sa parole. Ce sont les États-Unis qui ont été déloyaux dans ses accords.
Ce qui est amusant, c'est quand je vous entends, Oliver Stone, c'est que après cette campagne américaine avec Trump, le Tea Party, le populisme américain, à chaque fois que j'entends quand j'entends un Américain comme vous qui tient le discours que pourrait tenir chez nous un Mélenchon à propos de la Russie, ça, moi, ça me sidère que ça existe encore aux États-Unis.
Do you know Jean-Luc Mélenchon?
Vous êtes quand même extrêmement. Vous avez une vision quand même.
Vous moquez de la gauche, mais I would vote for Fillon on the basis that he would make a rapprochement with Russia and end this bullshit, these sanctions that make no sense.
Ces sanctions n'ont aucun sens. Elles ne font qu'amputer l'Europe et vous rapprochent d'une guerre. Vous serez en plein milieu de cette guerre.
Alors donc, vous avez voté pour Trump?
Non,
soyez sérieux, je n'ai pas voté pour Trump. J'ai voté pour un candidat indépendant.
Il veut se retirer de l'Europe, il veut retirer ses troupes de tous les combats, de tous les
territoires extérieurs.
Mais pour être honnête, ce qui pourrait arriver de mieux à l'Europe, c'est de retrouver son indépendance des États-Unis. Que les États-Unis se retirent de l'OTAN et vous, les Européens, vous retirez de l'OTAN surtout. Comme le voulait De Gaulle, l'Europe retrouverait son identité.
Pascal Lamy, s'il vous plaît, quel narratif, quel récit pour l'Europe et l'identité européenne?
Vous avez introduit 13 pays fous dans NATO à cause de...
L'identité européenne, et vous venez déjà de, rien qu'en posant la question, en partie d'y répondre. Le narratif européen, c'est un narratif d'identité. Qu'est-ce qui fait notre identité à nous, Européens, dans le monde d'aujourd'hui et de demain? Et je continue à le parcourir pas mal. Ce qui fait notre différence, c'est que nous sommes plus intolérants aux inégalités qu'ailleurs. C'est ça, notre marque. Et rien que pour ça, si nous avons envie que nos enfants et nos petits-enfants continuent à se distinguer du reste du monde par le fait qu'ils sont moins intolérants, plus intolérants à l'inégalité, nous avons, dans notre pensée, dans notre civilisation européenne, croyons davantage à l'égalité qu'aux autres.
Allez,
Sylvie Guillaume, un mot.
D'accord?
Je ne suis pas d'accord du tout. Je vous demande une question très sérieuse. Voilà.
Et là, pour y arriver, pour faire en sorte d'exploiter ça... Quoi?
Non, mais je suis là pour donner la parole.
Merci, Jean. Pour exploiter ça, il faut de l'éducation, et il faut de la mobilité. Deux. Parce que, quand on revient sur cette question sur les territoires, sur les guerres, on a encore au cœur de l'Europe un dirigeant d'un pays en Europe qui continue de contester les frontières, qui continue d'avoir une expansion territoriale a priori. Je parle la Hongrie, quand elle fait une carte, souvent, elle outrepasse les frontières actuelles. Donc, pour connaître, pour être mobile, il faut arriver à donner, je crois, cette perspective pour la jeunesse. Il faut avancer. sur les questions d'éducation, on n'est pas au point. Il n'y a pas de reconnaissance des diplômes, on est tous désarçonnés, on fait des classements tous.
Il n'y a même pas de manuel scolaire.
Il n'y a rien dans les
manuels.
Il y a peu de choses dans les manuels, donc essayons de grouper ça. La mobilité, l'éducation.
Jean. Alors, le problème de l'identité, jusqu'à présent, identité, ça se définit, ça nous définit, en règle générale, contre l'autre. C'est-à-dire, nous sommes français parce que nous ne sommes pas étrangers. C'est toujours ça, l'identité. Et l'identité, c'est quelque chose de très nationaliste. Et l'Europe, elle a essayé de construire un autre narratif.
Patriotique, non?
Non, c'était un peu ce que disait un philosophe allemand, Jürgen Habermas, qui était un patriotisme constitutionnel, basé sur la norme. L'Europe, c'est pas un continent agressif. C'est un continent qui exporte de la norme, qui exporte du droit, qui exporte de l'état de droit, qui exporte de l'économie de marché. C'est ça notre modèle. Le problème fondamental que nous avons aujourd'hui, c'est que ce modèle-là, il fait pas rêver. Qu'est-ce qui fait rêver les Européens?
C'est ça, qu'est-ce qui fait rêver?
Eh ben les Américains qui envahissent l'Irak, les Américains qui arrivent avec leurs porte-avions, leurs drapeaux et qui balancent des sacs de riz sur des gens qui viennent de connaître un tsunami. C'est la puissance militaire qui fait rêver les Européens.
Mais les Américains n'en veulent plus.
Oui, les Américains n'en veulent plus parce qu'ils viennent de connaître le coup. Je termine juste le raisonnement, mais donc je pense que aujourd'hui le problème qu'on a en Europe, c'est que la montée des nationalismes, la montée des extrémismes, la montée, je dirais, d'un retour à un esprit militaire quelque part qu'on retrouve chez nos concitoyens, parce que c'est ça, c'est le Front National, les néo-nazis en Autriche, BP Griot, c'est des affrontements de pays entre
Oliver Stone.
Et donc je pense que c'est ça qui est, on voit à quel point les gens n'ont pas compris le narratif européen.
Oliver Stone, à vous, parce que j'adore quand vous parlez, Jean Quatremer se fait tout petit dans sa chaise, donc je vous en prie.
Non, I think that Pascal et Jean, vous êtes très... You're talking about the best qualities of Europe.
Vous parlez des qualités de l'Europe. Mais que s'est-il passé? Pourquoi n'avez-vous pas donné l'asile en Europe à Edward Snowden, sur lequel j'ai fait récemment un
chien? Pourquoi?
Mais parce qu'on est soumis à l'Amérique, de ce point de vue-là.
Très bien.
C'est ça, oui.
Non, mais moi je suis sur la même position.
Well, that's the problem. You don't have sovereignty.
Mais c'est bien le problème. Vous n'êtes pas souverain. De Gaulle aurait donné l'asile. La Suisse l'aurait donné. La Suède aurait pu le donner.
Mais grâce à Trump,
c'est la bonne nouvelle.
Mais grâce à Trump, voilà. A priori, ça vient de l'Europe va s'affranchir.
Oui, Trump est une chance pour nous.
Le seul pays qui pouvait lui donner l'asile était la Russie. Parce qu'elle a la puissance nucléaire. La Chine aurait pu, l'Iran aurait pu. Ce sont les seuls pays que je connaisse qui agissent comme des nations souveraines. L'Europe n'est pas souveraine. Vous êtes otage. De mon film sur Snowden, avez-vous vu la scène où il parle de cyberguerre au Japon?
D'accord sur le fait. D'accord sur le fait que l'Europe n'est pas assez indépendante. Et si elle n'est pas assez indépendante sur le plan militaire, c'est parce qu'elle accepte, ce qui est assez commode sur le plan budgétaire, d'être protégé par le parapluie américain. Ouais. En dehors des Français et des Anglais qui ont une bombe, mais cette bombe, comme on le sait, ne protège pas ni les Allemands, ni les Italiens, ni les Espagnols, ni... Bon.
But you bomb the Libyans, you bomb the Syrians.
Je dis simplement que nous avons accepté jusqu'à présent de travailler sous le parapluie américain parce que c'est moins cher. Alors, si les Européens veulent devenir indépendants, si M. Trump trouve que ça lui coûte trop cher, il va falloir que les Européens paient 2%, 3% de leur budget pour leur défense. Ça fait beaucoup d'argent.
Donc, vous
en
pensez,
plus.
Pascal Lamy, que l'élection de Trump à la Maison-Blanche, c'est une chance pour l'Europe?
Je pense que c'est un risque pour l'environnement. C'est un risque pour l'Iran, c'est un risque
pour les échanges
pour la Chine.
Commerciaux.
C'est pas vraiment un risque pour les échanges commerciaux parce qu'il fera pas le tiers du quart de ce qu'il ferait. Parce que l'économie américaine est trop intégrée dans le reste du monde pour qu'il coupe les liens. Par contre, s'il venait à remettre en cause l'OTAN, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait parce que pour les raisons que vient de dire Oliver Stone, c'est quand même un moyen de tenir les Européens sous leurs mains. S'il venait à sortir de l'OTAN, alors les Européens seraient obligés de payer pour leur défense, et ce jour-là, ils seront vraiment indépendants.
Sylvie Guillaume.
Non, mais on reste, pardon, je sais pas le jeu de mots, mais très défensif.
Ouais.
Sur ce qu'on veut dire sur le futur. Là, on dit, il existe quelque chose, il y a des risques, il y a des échanges. Qu'est-ce qu'on sort? Je crois que la question que vous vouliez poser, c'était ça, sur qu'est-ce qu'on sort comme nouvelles idées, à qui on s'adresse.
Quand de vous nouveau, dites que vous vouliez poser, c'est clair, vous ne répondez pas. Bah,
franchement, on a un peu de mal, on a un petit peu de mal à s'écarter de, effectivement, et à être sur ce sujet-là. Mm-hmm. Moi, je pense que les types de publics qu'on aura peut-être pour regarder cette émission, les publics jeunes seront intéressés évidemment par cette parole-là parce qu'elle est intéressante, mais ils n'auront pas de réponse malheureusement sur le futur.
Mais il n'y a pas de réponse.
On peut trouver des idées,
au moment où Louis XIV, baptisait l'État français, est-ce qu'il a dit « je vais vous faire un narratif français » ? Il a fait. Il faut arrêter avec ça.
Je suis absolument pas d'accord.
Il
a fait. Saint-Louis a payé un mec, un speechwriter, qui s'appelait Joinville, pour écrire sa vie pendant qu'il était roi. Et chacun sait que la vie de Saint-Louis, elle est dans la mémoire des Français. Donc,
ça, Oliver Stone,
franchement, le
Pascal
spin,
Lamy, Sylvie Guillaume, Jean Quatremer. On marque une courte page de publicité. On se retrouve juste après pour la revue de presse et on poursuit, on termine ce débat et on présente ses ouvrages. A tout de suite.
Good idea.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus, Yann Anthony Noguès.
Merci de nous retrouver pour cette deuxième demi-heure de 500 millions d'Européens. Toujours sur le plateau avec nous, Oliver Stone, réalisateur américain, auteur de JFK, auteur de Snowden, le lanceur d'alerte, on va en parler dans le cadre de la revue de presse. Pascal Lamy, ancien directeur général de l'OMC, qui préside le comité de parrainage du prix du livre européen. Sylvie Guillaume, vice-présidente du Parlement européen. Et Jean Quatremer, auteur du blog Coulisses de Bruxelles et correspondant de Libération. C'est la 10e édition du prix du livre européen cette semaine ici au Parlement, avec un prix spécial du jury décerné à Frans Timmermans pour Fraternité, avec un prix des essais à Eri De Luca, Le plus et le moins, et le prix du livre européen catégorie fiction pour Javier Cercas, L'imposteur. On poursuit notre discussion et puis on va également retrouver dans un court instant Éric Scholl, le directeur de la rédaction de Courrier International. On poursuit la discussion, faut-il un nouveau narratif pour l'Europe, et puis on essaye de l'identifier.
BFM Business, 500 millions d'Européens, la revue de presse.
Bon, Oliver Stone, c'est difficile pour vous, hein, là. Moi, je pensais que vous étiez un déçu des États-Unis. Je pensais que vous étiez encore, vous berciez d'illusions pour l'Europe. Et aujourd'hui, ce que vous venez nous dire sur ce plateau, c'est que l'Europe n'a rien compris et se laisse influencer par les États-Unis et dans son attitude vis-à-vis de la Russie. Et en gros, l'Europe est un petit peu perdue aujourd'hui.
Totalement perdu. Oui. Ouais. And I, as I said before, I don't know why you did not give
asylum. Comme je le disais tout à l'heure, je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas donné l'asile à Snowden. Vous l'auriez donné dans les années 60, lorsque vous étiez plus indépendant.
Very serious question.
Jean Quatremer.
Ce que vient de dire Oliver Stone est tout à fait justifié. Qu'on ait refusé non seulement d'accorder l'asile à Snowden, et même de laisser Snowden survoler le territoire français, parce qu'on croyait qu'à un moment il était dans l'avion d'un dirigeant sud-américain qui survolait le territoire français, et nous avons donc un gouvernement de gauche dirigé donc par François Hollande a interdit à l'avion de l'officiel sud-américain de survoler le territoire français pour ne pas se fâcher avec les Américains. Dire qu'on est là, ça pose de vrais problèmes, de vraies questions d'indépendance nationale et d'indépendance européenne.
Mais qu'est-ce que ça a donné justement? Ça a donné les premiers prémices. C'est d'abord, ça a mobilisé les gens. Ça a mobilisé les jeunes. Il y a eu des réactions. Et cette question des lanceurs d'alerte, elle a quand même cristallisé et elle donne quelque chose. Demain, on va être effectivement saisis de règles qui vont permettre de ne pas faire n'importe quoi, chacun à sa sauce, dans n'importe quel état. Je regardais les premières
protections. Visiblement, ne peut pas bouger. Le Parlement voudrait, mais la Commission ne peut pas bouger parce qu'elle ne peut pas légiférer en matière pénale.
On s'en sort pas en disant la Commission ne peut pas bouger. La Commission, elle peut toujours bouger et elle va produire un texte en la matière. Elle était bloquée par un certain nombre de choses. je pense que la pression du Parlement, le fait que ce soit un sujet majeur, et les films aussi tels que Snowden, parce que ça a donné une identité à ce personnage. C'était plus quelqu'un qui volait dans un avion ou qui n'arrivait pas à se poser, qui avait dénoncé, qui pouvait être un traître. Ça a donné une identité, une visibilité. Et je vais vous le dire, ça l'a même rendu sympathique pour moi. Que je ne trouvais pas forcément cet individu très sympathique, très... Je trouve que ça a donné une densité à son personnage, votre film donne cette densité-là, et je pense que muni de ces éléments, muni de cette mobilisation, on peut faire quelque chose de plutôt bien, qui va pas partir effectivement dans tous les sens, qui va pas être simplement au détour d'une directive comme ça aurait pu l'être il y a une année ou une année et demie de cela. Ça sera un vrai sujet. Ben ça, c'est une forme de narratif pour demain.
Bonjour Éric Scholl.
Bonjour Yann Anthony.
Directeur de la rédaction de Courrier International. Pour votre revue de presse, vous allez nous emmener en Italie, au Danemark, en Espagne. Mais on commence par l'Allemagne avec le sujet qui nous intéresse, étant donné qu'on a le réalisateur de Snowden sur le plateau.
Oui, un papier du Spiegel, un grand article dans le Spiegel, une sorte d'appel, hein, un appel pour amnistier Snowden. Alors je vais vous donner quelques extraits de cet appel. Edward Snowden s'est sacrifié pour nous tous, littéralement pour chacun d'entre nous. Et le journaliste nous fait la comparaison d'ailleurs avec Benjamin Bradley. Rappelez-vous, Benjamin Bradley, c'est le rédacteur en chef du Washington Post qui avait couvert le Watergate et qui est mort aujourd'hui. Au moment de sa mort, il a été couvert d'honneur et auréolé notamment par Barack Obama. Alors, le journaliste allemand nous explique avec le recul, ceux qui considèrent aujourd'hui Snowden comme un traître comprendront tout ce qu'ils lui doivent. Cet homme nous a permis de mieux comprendre notre monde. Chacun de nous est sous surveillance, écrit Jacob Hochstein donc, dans le Spiegel. Et il termine en nous expliquant Edward Snowden n'est pas lâche. Au contraire, c'est l'un des hommes les plus courageux de notre époque. Et donc, il renouvelle cet appel. Un appel envoyé directement à Barack Obama avant le 20 janvier. Le 20 janvier, il doit prendre cette dernière décision de ce président qui a jadis été l'avocat des droits du citoyen. Et c'est bien cette décision doit être d'accorder l'amnistie à Edward Snowden. C'est dans le Spiegel.
Oliver Stone, à votre avis, ce serait possible ?
J'aimerais beaucoup que ça arrive avec une grâce. Obama se rachèterait car il a été l'un des plus virulents concernant la liberté de la presse sous le Espionnage Act. Pas un journaliste aujourd'hui ne peut parler à un membre ou un officiel du gouvernement américain sans qu'il y ait une autorisation accordée par sa hiérarchie. C'est une situation très difficile et Obama a renforcé toutes les lois passées sous l'ère Bush. C'est un des grands échecs d'Obama.
But I want to make one more. Le survol, vous parlez de survol français. La surveillance française aussi,
oui,
parce que
terrible.
M. Hollande avait été surveillé, bien sûr. Il n'a rien dit.
Non, mais
il
n'a
rien dit. Tu te rends compte de ce qu'il fera de Gaulle?
Oliver Stone, non seulement la France n'a rien dit, mais la France a adopté une série de lois à cause du terrorisme islamiste qui vont bien plus loin que le Patriot Act en matière de surveillance généralisée. Et c'est pour ça aujourd'hui que Snowden, personne veut l'amnistier, que tous les États veulent sa mort, parce que s'il y a des milliers de Snowden dans nos pays européens, et bien toute la surveillance policière, la surveillance par les services secrets s'effondre. Et la gauche a une responsabilité, la gauche française a une responsabilité dans la réduction des libertés publiques. On a fait du Patriot Act, mais sans le dire, c'est gravissime.
Je ne suis pas d'accord avec ça, moi non plus, je ne suis pas d'accord. La France a pris des dispositions. Et nous avons besoin de dispositions qui nous permettent d'espionner des gens qui préparent des actes terroristes contre la France.
Targeted surveillance.
Nous avons besoin de ces dispositifs pour des raisons de sécurité. Et si on ne le fait pas, il y aura plus d'attentats.
Oui, c'est ce qu'on a fait pour le Patriot Act.
C'est
la même chose.
Jean,
targeted surveillance.
Permettez une seconde. On l'a fait dans des conditions qui ont été délibérées par le Parlement, par l'Assemblée nationale, par le Sénat, et dans des conditions qui, en France, préservent les libertés publiques.
Alors, la baseline d'Oliver Stone pour son film, hein, quand même, Sylvie Guillaume, la baseline de Snowden, c'est coupable ou innocent, nous sommes tous sur écoute. C'est ça le problème.
C'est une réalité.
Juste Sylvie Guillaume.
C'est une réalité, mais à partir de cette réalité-là, il faut trouver, entre nous, les moyens de faire fonctionner ça. Ça qui compte. Oui. On n'est pas juste... Tout à l'heure, quelqu'un disait, l'Europe, c'est des producteurs de normes. Alors, évidemment, on dit comme ça, c'est pas très sexy. Mais si effectivement ça fait.
Ouais,
ça
doit être sympa.
Si ça fait. Il vous.
Qui n'est pas très sexy. Oui, non, mais je vous en prie.
Si effectivement on ne sert qu'à produire de la norme, ça sert à rien. Il faut donner du sens à ça. Et réagir à partir de ça, donner des cadres, ben moi je trouve que c'est plutôt là aussi une bonne perspective.
Il n'y aura pas de Guantanamo en Europe.
Oui, mais
yeah, our film is about surveillance.
C'est déjà ça.
But Snowden says, keeps saying in the film, is it targeted? When he was talking about surveillance, when you go after terrorists, the best way to catch...
Vous parliez d'écoute pour contrer les attaques terroristes. On sait que la meilleure manière de prévenir les attaques terroristes, ce sont les écoutes ciblées. On sait qui ils sont, qui sont leurs amis. Grâce aux renseignements, on les trouve.
And people don't even talk about
it. Il est question d'écoute généralisée, des écoutes de masse. C'est ça la différence. Personne n'en parle.
Nous sommes tous sur
l'écoute. Oui, mais, yes, but what's the point? Because it doesn't lead to any. You don't catch terrorists that way. They say the.
Voilà, mais vous n'attrapez personne avec cette méthode. Ils disent que c'est utile, mais ça ne l'est pas. L'objectif ici n'est pas de prévenir le terrorisme, mais c'est le contrôle, à la fois sur le plan économique et sur le plan sociétal, sur tout le monde, tous les pays alliés et ennemis. Ce qui s'est passé au Brésil il y a quelques mois, par exemple. Ça aurait pu être le fruit d'écoute américaine dans l'affaire Petrobras. On sait que Dilma Rousseff est derrière ça. En Ukraine, en Syrie, le renseignement américain est massif et nous poursuivons tous ceux qui ne sont pas alignés avec les États-Unis.
C'est
ton
mot.
C'est sûr.
Parce que le mot,
on enchaîne sur le reste de la revue de presse.
Surveillance ciblée et l'échange.
Non, je comprends pourquoi
l'échange et l'analyse. Ça sert à rien d'avoir des milliards de données si on ne sait pas les utiliser, si on ne sait pas les analyser. Et là, il faut qu'on change
direction l'Italie. Référendum après la démission de Renzi. Italie, année zéro.
Oui, c'est ce que dit l'hebdomadaire romain L'Espresso, hein, pari perdu, échec cuisant pour Matteo Renzi. Et il rappelle ce chiffre quasiment 40% donc qui représente finalement ce chiffre, c'était celui du triomphe renzien aux élections européennes. Et aujourd'hui, eh bien, c'est ce qu'il a fait perdre finalement Matteo Renzi. Alors il explique, le journaliste, que le pays s'est senti oublié, écarté du récit renzien. Et effectivement, Renzi avait parié que le jour de ce référendum marquerait la naissance de la Troisième République, eh bien le journaliste dit plutôt qu'il marquera au contraire l'année zéro.
Jean, l'année zéro en Italie ?
C'est un peu exagéré, je veux dire, c'est souvent des grands mots concernant ce référendum. C'est clair que ça introduit de l'instabilité en Italie et au sein de l'Union européenne. Ça montre à quel point la social-démocratie est profondément malade en Europe, parce que c'est un des derniers dirigeants social-démocrates qui tombe. Alors pour l'instant, il y a toujours une majorité du Parti démocrate, mais en 2018, il est quasiment certain que cette majorité ne sera pas reconduite. C'est ce que montre le fait de Renzi. C'est qu'au fond, aujourd'hui, la gauche a totalement échoué en Europe. Il y a de la place pour la droite, il y a de la place pour l'extrême droite, peut-être un peu pour l'extrême gauche en Grèce et ailleurs, mais la gauche a perdu le combat idéologique. C'est terrifiant. Et en France, en 2017, ça va être l'année zéro en France.
Il faudra m'expliquer alors pourquoi il y avait une partie du Parti démocrate qui n'était pas d'accord avec Renzi. Ce n'est pas seulement un clivage entre droite et gauche. On a retrouvé dans le camp du contre des gens qui n'étaient absolument pas, qu'on ne pouvait pas caractériser exclusivement sur un registre politique.
Bien sûr.
Sinon, quelqu'un comme Massimo D'Alema n'aurait pas pris la position qu'il avait. De la même manière, où Draghi, Monti
Monsieur
l'a pris
Monti,
vraiment un peu du bout des lèvres.
Ni populiste, ni d'extrême
gauche. Vis-à-vis de cette réforme, un problème profond, mais je ne pense pas que la seule grille droite-gauche où la social-démocratie est en ruine à cause de ce référendum, je ne pense pas
que ce soit
le
cas. De manière générale,
où est la
social-démocratie européenne ?
Que la social-démocratie ne soit pas très en forme, ça je vous l'accorde, voilà. Bien volontiers.
Margrethe Vestager, en direction le Danemark maintenant, où Margrethe Vestager, commissaire européenne, est élue femme de l'année.
Oui, elle est élue femme de l'année par le prix du quotidien Berlingske, le grand quotidien de Copenhague. Et voilà, donc, alors pour le coup, beaucoup de louanges, évidemment. Elle a été louée au cours de ces deux années passées pour tous ses efforts visant à empêcher les grandes multinationales d'exploiter leur position dominante, Apple, Google, Starbucks, Gazprom. Et puis le journal revient en particulier sur cette affaire de réduction fiscale accordée à Apple par l'Irlande, sur laquelle c'est beaucoup investi Madame Vestager. Donc voilà, son travail comme commissaire à la concurrence a des retombées positives pour l'Union européenne, explique le journal danois, car il montre que certaines tâches importantes sont mieux gérées par une Union européenne que par les États nationaux eux-mêmes.
C'est intéressant qu'on parle de Madame Vestager qui serait
qui aurait inspiré la série Borgen, le West Wing européen en quelque sorte. Est-ce que ça, Oliver Stone, vous pensez qu'on pourrait produire une sorte de West Wing européen, the House of Cards européen?
Why would you want to?
It's so Berlaymont.
I hate the West Wing.
Je déteste The West Wing. C'est la série télé la plus décadente. Parce qu'elle apprend aux gens à être cyniques.
Everyone is acting smart and cynical in America. It's not good. We don't want that in Europe. We want visionaries.
C'est pas bien. Nous avons besoin de visionnaires.
Mais moi, je ne suis pas sûr. Moi, j'ai regardé West Wing.
Non, House of Cards.
Oh, House of Cards.
Ah, pardon, je parlais de House of Cards. Mais vous voyez ce que je veux dire.
Présidentielle inspirante, quand même. Charlie Sheen, Martin Sheen.
Martin Sheen
à la tête de l'Union européenne et de faire une série comme ça.
Oh, vous n'en êtes plus là en Europe. Vous êtes déjà dans House of Cards.
Ah oui, d'accord. On est déjà dans House of Cards. Bon, d'accord.
Alors, on est mal barré.
On n'arrive pas à raconter une histoire sur l'Europe, là. Quand on voit, on a discuté pendant 45 minutes.
C'est difficile
de trouver un thème sur l'Europe et un narratif et un récit.
C'est compliqué. J'ai fait cette proposition il y a quelques années de se donner comme projet de civiliser la mondialisation. L'Europe, c'est la version la plus civilisée de la mondialisation. Elle n'est pas assez bien civilisée de mon point de vue, mais c'est quand même la plus civilisée. Et si on pense à pourquoi il faut construire l'Europe pour l'avenir, c'est en gros parce que je n'ai pas envie que mes petits-enfants soient ni chinois ni américains. Alors, pour des raisons dont Oliver Stone a donné un certain nombre.
Mais russe.
À terme, je pense...
Better red than dead.
À terme, je pense que la Russie fait partie de l'Europe sur le plan de la civilisation. Ouais. À terme. Bon. Je ne crois pas que M. Poutine soit le genre de social-démocrate que je préfère. Non. Mais je crois que c'est ça le narratif d'avenir. Il faut se projeter dans le monde de demain. Dans le monde de demain, il y a des grands éléphants. La Chine, l'Inde, les États-Unis. Si on veut que nos valeurs, ce qui fait notre identité, persistent, alors il faut le faire ensemble.
Mmh. Bon, ben voilà, on va vendre des éléphants. Selon Pascal Lamy, Mais la question, c'est que l'Europe a trop tendance à être un éléphant rose, qu'on voit que dans certaines circonstances et qui est un petit peu soft, peut-être, à l'échelle mondiale. Merci beaucoup, Oliver Stone. Vous présidez le jury du prix du livre européen. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup, Sylvie Guillaume, vice-présidente du Parlement européen en charge de la communication. Eurodéputé socialiste, merci beaucoup Pascal Lamy, vous présidez le comité de parrainage du prix du livre européen, et merci Jean Quatremer, vous lisez des livres,
j'en ai fait des films, beaucoup de séries,
et des films complotistes
par exemple, mais je conseille à tout le monde de regarder ça, JFK, ça c'est un bon film.
Voilà, JFK, donc vous êtes en train de montrer le DVD que vous avez fait dédicacer en vulgaire groupie par Oliver Stone. Bon, merci à tous, merci à Alexandre Rouget qui a préparé cette émission. Merci à Marie Ribert qui nous a aidé à l'organiser. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 500 millions d'Européens, toujours même jour, même heure. Bonne fin de week-end à tous, à l'écoute de BFM Business. Merci.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs.